Salut meuf, je te sers un truc?
Je veux bien un petit cap, s'il te plaît.
En plus, il faut que je te raconte une histoire.
Oh, waouh.
Salut Pauline.
Coucou Lisa.
Ça va?
Ça va et toi?
Bah écoute, ouais, ça va.
T'es
un
sûr?
Peu stressée.
T'es sûre que ça va?
Et là, on va immédiatement parler des deux personnes
qui sont supplémentaires. En face de nous.
Les gars, il faut sachez que à l'heure où on parle, il y a deux personnes qui nous accompagnent pour cet épisode, qu'on salue, ils nous regardent pas, mais on les salue.
Ouais, on leur fait des coups.
Et ce qui fait que là, on a des micros d'une très bonne qualité, donc peut-être que vous allez noter un changement dans l'audio. Enfin, ouais. C'est évident, puisque Chantal, elle est hyper sympa. Chantal, notre ancien micro.
Elle a fait son temps, on ouais. pense que elle nous a rendu vraiment service, mais là, elle est retournée chez sa mère.
Exactement. Et aujourd'hui, voilà, on tape dans du...
dans un niveau supérieur, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on mérite.
C'est ça.
Au bout d'un moment, ça suffit. On ne sera pas les clochards de Rennes jusqu'à la fin de 2023, une nouvelle fois.
Alors aujourd'hui, on revient avec un épisode qu'on a déjà fait. Ouais. On a déjà fait une partie 1 de cette FAQ et on s'est dit que ce serait intéressant de faire une deuxième partie.
Exactement.
Est-ce que tu peux l'introduire, Pauline, s'il te plaît?
On vous a posé des questions sur Instagram, comme la dernière fois, comme on fait tout le temps, parce qu'on adore avoir vos avis, vos situations. Et là, on repart sur une FAQ, relation amoureuse, relation amicale.
Ouais.
Et on a trop hâte de vous donner tous nos avis. Et on part directement avec une mise en situation, avec une question des plus profondes qui soient, qui est Lisa, où en es-tu dans ta vie sentimentale?
Alors, la vache, je commence du coup, je suis super à l'aise. la première partie que j'ai envie d'aborder, c'est plus la partie amicale, parce que je me sens plus à l'aise à parler de ça.
De toute façon, le sentimental, voilà. Les gars, ça peut être amical, ça peut être amoureux, c'est tout ce qui fait jouer le cœur.
Oh la vache. Et donc, pour la partie amitié, 2022 n'a pas été de tout repos. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en 2023, j'ai plus envie d'être dans un truc plus dans l'analyse. J'ai pas envie de donner ma confiance à tout le monde. J'ai envie un peu de différencier les gens de mon entourage. Enfin, on parle du premier cercle de potes, deuxième cercle de potes, de porc.
De porc aussi.
Ça,
hein.
J'aurais pu à parler. donc, premier, deuxième, troisième. Et je pense que j'ai toujours eu un truc un peu flou de barrières qui différenciaient un peu les gens. Et j'avais envie d'avoir la même relation avec tout le monde, accorder ma confiance à tout le monde et recevoir la même chose en échange. Et c'est vrai que cette année, j'ai envie de faire un travail là-dessus. Déjà parce que je pense que ça permet aussi de s'apaiser soi-même et de plus être dans un conflit permanent de je reçois pas autant que je donne. Enfin, genre, je pense que ouais, juste ça peut permettre d'apaiser un peu tout ça et effectivement d'avoir ton premier cercle de potes et voilà, c'est bon, c'est acté. Et le reste, c'est du plus, c'est du bonus, c'est des petits moments un peu légers, machin.
Très bien, madame. Et sur le plan sentimental?
Sur le plan sentimental, j'ai pas du tout envie de penser à ça cette année, j'avoue. 2022, je me sentais un peu plus focalisée sur peut-être trouver quelqu'un, je sais pas, être plus dans une démarche de drague, j'ai envie de trouver l'amour, quoi, finalement. Et finalement, je l'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, 2023, c'est ciao, j'ai d'autres trucs en tête. J'ai envie de me focaliser sur mes potes, sur le pro aussi. Enfin, vous avez un peu suivi nos petites aventures niveau professionnel l'année dernière. Et donc, cette année, j'ai juste envie de me focaliser là-dessus. Et puis, je pense que tu peux faire aussi des belles rencontres, justement, dans les moments où tu cherches le moins, quoi. Donc, voilà.
C'est magnifique.
Et toi, ma Bene, ma Bella?
Waouh! Moi, donc, sur le plan amical, je dirais que c'est un peu comme toi, mais en même temps assez différent. Donc, ça veut rien dire, ma phrase. Mais...
mais t'es super mystérieuse.
Tu vois, je tease. Non, moi, c'est, je me suis beaucoup renfermée, je pense, ces dernières années, amicalement parlant. Où maintenant, j'ai mes amis, c'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est carré, tu vois. Mais j'aimerais justement aller plus vers les autres et réouvrir un petit peu ma bulle.
Ouais.
Et me dire que certes, j'ai mes amis proches sur qui je peux compter, mais j'aimerais aussi ne pas me fermer continuellement à de nouvelles rencontres, à de nouvelles expérience et justement laisser rentrer des potes, juste des potes sur qui, enfin, je vais pas forcément miser toute ma vie, toute mon existence, mais des gens lambda avec qui je peux boire des verres de temps en temps et
parce
avec
que qui ça peut être... T'as eu cette impression-là l'année dernière de justement te fermer un peu à potentiellement d'autres gens qui peuvent rentrer dans ta bulle.
Bah, je pense que je provoquais pas le destin non plus. Et si les gens venaient vers moi, j'avais des barrières un peu automatiques où j'avais pas forcément envie de me livrer, j'avais pas forcément envie de leur accorder ma confiance. Et j'avais un peu ce truc, exactement, du coup, pour faire la transition en amour, où je pense que j'avais un truc de perfectionnisme, ouais. Où je cherchais des personnes parfaites en me disant « si les gens sont parfaits, ils vont pas me laisser ». Donc je me coupais vraiment de plein de relations et de plein d'opportunités et je restais chez moi avec ma petite bande de potes et maintenant je pense que je suis prête à affronter le monde docile.
Au bout d'un moment on se fait chier, enfin, faut pas se mentir aussi.
C'est ça, t'as envie de vivre des expériences. Pas, ouais. Donc voilà un petit peu la météo émotionnelle.
Et du coup à l'amour, on est un peu dans la même dynamique.
Bah ouais, c'est ça, c'est que je pense que j'ai voulu tellement contrôler mes relations amoureuses pour être sûre de pas souffrir que j'en étais arrivée à faire des portraits robots des mecs que j'allais devoir pécho, tu vois, genre ouais. Je me disais il faut que ce soit comme ça, j'étais intransigeante et maintenant je me dis bah, quitte à pas pécho, autant ne pas non plus avoir une liste exhaustive de 1000 qualités ou défauts qu'il faudrait avoir ou ne pas avoir. Et je me dis, je me laisse...
L'année dernière, niveau case à cocher, quand même, on était pas mal toutes les deux quand on s'en parlait tout
ça.
À l'heure.
Je pense que c'est une façon d'être indisponible émotionnellement. Ouais. Genre, tu mets tellement de critères que inconsciemment, tu te coupes des autres et tu te coupes des relations. Ouais. Du coup, ça
c'est que t'es pas prêt, ouais.
Et oui, ça te met une excuse de dire « Ah bah non, ça fonctionne pas parce que cette petite case-là n'est pas cochée. » Alors, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se forment, de relations amicales, en étant des gens pas forcément compatibles au début, mais t'as des alchimies qui font que, quoi.
Mais on voulait faire un épisode là-dessus, je me souviens, sur les relations. Enfin, quand t'es dans une démarche de drague, etc., avec quelqu'un, quand tu passes par les plateformes genre Tinder et tout machin, on voulait faire un épisode là-dessus. Je pense qu'en vrai, ce serait pas mal.
Ouais, je pense que ça va arriver dans pas longtemps. On a plein de trucs à dire. Ouais. Les premiers dates, les...
On en a fait.
On s'est donné.
On a arrêté. On s'est mise dans la tête qu'on allait rester célibataire. Voilà. Au moins, ça met beaucoup moins de pression et c'est un peu plus fun à vivre comme ça.
Ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, on vous a demandé de nous poser des questions en lien, justement, avec les relations, les questions que vous aviez par rapport à ça. Donc, on va y répondre. Je vais me munir de mon petit téléphone.
Ouais.
Puisqu'on a toutes les questions dessus. Et puis,
c'était très axé dépendance affective, quand même, je trouve.
Mais ouais,
il y avait, je sais pas quelle est l'énergie autour de vous, les petites libellules, mais il y avait pas mal de dépendance affective. Trop chouette, si vous vous en prenez conscience.
Trop chouette, si vous êtes dépendant. Non, c'est que t'allais dire ça.
Trop chouette si vous souffrez en relation, c'est
nous
aussi. Ben non, nous y a pas.
Ah oui, non,
on souffre
vrai,
pas.
Vrai,
mais nous c'est l'inverse, c'est le contre-coup. Il y a plus. Donc ouais, donc la première question c'était quoi?
C'est comment on sait qu'on est en dépendance affective. Donc on rentre vraiment dans le vif du sujet en prenant le taureau par les cornes, par les yeux, par tout ce que vous voulez. Ouais. Et puis ouais, bah vas-y aussi, hein.
J'allais aller loin, mais pas revenir, comme d'habitude.
Est-ce que tu veux commencer pour la première question, tu veux que j'y aille?
En premier signe, je pense que pour prendre conscience que tu es en dépendance affective, je pense qu'il y a une perte totale de singularité dans tes émotions, dans ta façon d'être, dans comment tu organises tes journées. Je me rappelle, moi, mon premier copain avec qui j'avais fait énormément de dépendance affective, je planifiais pas mes week-ends, j'attendais qu'il me donne son planning, et je me disais, en fonction, je verrai comment moi je fonctionne.
Ça, je faisais tellement la même chose.
Et ça, c'est le je trouve que c'est le premier signe, genre t'as plus de vie toute seule, t'es juste le zombie de l'autre derrière, t'attends qu'il fasse des trucs, qu'il vienne te voir, et c'était soit il était avec moi, soit il était pas avec moi, mais j'étais pas toute seule. C'est trop bizarre. Et toi, tu dirais quoi?
ça rejoint un peu le premier point que tu soulèves. Moi, j'avais mis que ta personnalité, elle se mélange un peu avec la sienne. Donc, genre, tous les trucs que lui va kiffer, on dit lui parce que voilà, on est hétéro, mais les trucs que lui va kiffer, les activités qu'il va avoir envie de faire, etc., tout est tellement centré autour de lui que, enfin, en tout cas, moi, ça me faisait ça. J'avais l'impression que vraiment ma personnalité, elle se blendait à la sienne.
Ouais.
Et je savais même plus qui j'étais, ce que je kiffais, ce que j'avais envie de faire, si j'aimais bien ses potes ou pas. Enfin, même si je le kiffais au bout d'un moment, tu vois, je savais même pas. Mais du coup, ouais, t'as un espèce de truc de mélange où tu n'es plus le. T'es plus un individu à part entière, quoi.
De fou. Et puis, t'as aussi, j'avais marqué ça, toujours des triggers. C'est continuellement que chaque interaction que tu as avec la personne, ça te met mal. Et tu sais pas forcément pourquoi, tu as toujours des espèces de micro-sensations d'abandon, ouais. de rejet, tu te sens jamais assez bien, tu deviens très dur envers toi, donc tu peux avoir des comportements assez autodestructeurs, etc. Même la... Moi, je sais que ça m'avait fait renaître à un moment des TCA, des trucs comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, tu essayes tellement de contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler, que tu essayes de contrôler tout autour, dans toute ta vie, et tu deviens plus aussi, on va dire, colérique, je pense, avec les gens autour de toi. Moi, je sais que c'est ma mère qui m'avait dit, mais ton caractère, il est bizarre en ce moment, enfin, t'es tout le temps énervée, ça va pas, etc. Et parce qu'en fait, j'étais malheureuse dans ma relation, donc ça se répercutait
Et puis, t'as peur que le moindre truc, enfin, je sais pas si t'avais ça aussi, mais le moindre truc... que tu peux faire avec cette personne-là, moi j'avais peur qu'à chaque fois, il me plaque quoi. Et donc du coup tu dis faut pas que je fasse de vagues, et vraiment t'es tellement effacé que tout ce que tu vas ressentir, tu vas que l'extérioriser avec d'autres gens, et là tu vas devenir complètement imbuvable avec ton entourage. Moi je sais que j'avais perdu les trois quarts de mes potes quand j'étais dans cette relation-là. Et ouais, t'as un espèce de truc de t'es tellement dans la retenue en continu quand t'es avec cette personne, en même temps t'as envie de l'avoir tout le temps, donc enfin c'est suffocant.
Ouais, c'est ça, c'est suffocant, et t'as l'espèce de sensation de mort imminente toujours au-dessus de toi. Mais je te jure, c'est vrai, tu te dis, genre, enfin, moi c'est ça que je me disais, c'est que si tu visualises une rupture ou quoi que ce soit, t'as l'impression que tout est gravissime. Même une petite embrouille de merde, tu vas dire c'est horrible, ça prend des proportions énormes, et tout prend des proportions vraiment énormes, tout simplement.
C'est vrai ce que tu dis, Pauline.
Toujours vrai ce que je dis. Je lis tellement de bouquins.
Elle a une bibliothèque qui est tellement énorme.
Remplie de livres de dépendance affective.
Oh la vache.
Ensuite,
prochaine question. Comment gérer quand on donne toujours 1000% d'amour, mais on reçoit jamais autant en retour, amitié comme en couple?
Tu veux te lancer?
Ouais, alors je sais pas si c'est la bonne réponse ou pas, mais étant quelqu'un qui donne aussi beaucoup, je me dis si tu commences à soulever cette question-là de comment est-ce qu'on fait si moi je donne beaucoup mais je reçois rien en retour, c'est peut-être qu'au final, tu ne fais pas partie de... Enfin, ça va peut-être sonner méchant ce que je dis. Mais tu fais pas partie de la catégorie de gens qui ont envie de vraiment donner. Enfin, je sais pas si ça a du sens, mais en mode, si ça t'embête, c'est que ça part pas d'une vraie envie profonde, tu vois. Et c'est qu'il y a quelque chose, j'imagine, que t'as envie de combler derrière en disant, bah si je donne... Faut que je reçoive, et je sais pas, les gens ils vont peut-être se comporter de manière différente, tu vois, avec moi. Et déjà, moi, la question, ce serait plus ça, c'est pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de donner autant en amitié, en couple, et pourquoi est-ce que tu attends de recevoir quelque chose? Parce que normalement, c'est un truc un peu désintéressé, en vrai.
Bah oui, c'est ça, c'est quelles sont les peurs qui sont cachées derrière, en fait. C'est ce que tu as peur de pas être assez bien, de pas être aimé à ta juste valeur, d'être rejeté, enfin, c'est surtout toutes ces choses-là, parce qu'en plus, comme dit Lisa, quelqu'un qui va donner vraiment à fond va pas forcément se rendre compte qu'il est 100% généreux ou 100% dans le don, parce que pour lui c'est normal. Donc à partir du moment où toi ça te dérange, ça veut dire que t'es pas forcément ok avec ton propre comportement, et c'est là que c'est pas forcément les autres qu'il faut questionner, mais toi, ton comportement, et te dire que aussi les gens en face de toi ils vont avoir leur capacité en fonction de leur histoire et de leur niveau de vie de te donner tant ou tant d'amour, et en fonction de eux la façon dont ils le montre, et je pense que c'est vraiment quelque chose à régler avec toi plus que d'aller chercher la réponse en face, quoi.
Ouais, de ouf. Et puis si en plus tes potes, ton mec, ta meuf te redonne pas quelque chose en retour, bon là c'est encore d'autres questions qui se soulèvent, de est-ce que c'est les bonnes personnes, est-ce que c'est le bon entourage.
Ouais, c'est ça. Si vraiment tu te sens pas du tout valorisé, si t'as l'impression de toujours être seule face à ce qui t'arrive et que personne est là pour toi, là comme tu dis, faut se demander ce que je demande aux bonnes personnes, est-ce que c'est vraiment des potes ou est-ce que c'est vraiment des gens présents, et encore une fois se questionner sur pourquoi je demande à des gens qui sont incapables de me donner en retour. Ça c'est des questions super sympas à aller approfondir.
Ensuite, la prochaine question, là, c'est plus pour toi, Pauline.
Oh la vache.
Parce que moi, je n'ai pas su répondre à ça, n'ayant pas été dans cette configuration-là. Mais comment se remettre d'une rupture avec tromperie?
Et ça, voilà. Ça, c'est mon domaine.
N'hésitons
ça.
Pas à coller l'étiquette. Je me suis fait tromper.
N'hésitons pas à le crier haut et fort.
Pardon.
Si besoin. Ah, mais c'est pas de ta faute, c'est mon ex chien. Non, je rigole. Alors ça, vous voyez, C'est un dossier, les gars. Il faut du temps. Il faut du temps pour... Alors déjà, une rupture dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose de facile, je pense. Il y a forcément toutes les émotions. Il y a forcément la tristesse, la déception, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir des psychologues si vous en ressentez le besoin, parce que c'est toujours important. Avec Tromperie, après, il y a un nouveau... Il y a un nouveau décor qui se crée. qui est que tu as la trahison, du coup, d'un côté où t'as vraiment le couteau dans le dos, dans le pied, où tu veux.
Pauline, elle a inventé une expression la dernière fois, les gars. Je sais plus de quoi est-ce qu'elle me parlait. Et elle me dit, ouais, là, je me suis pris vraiment un couteau dans le pied de sa part. Je sais même pas c'est quoi la vraie expression.
Non, il s'est mis un couteau dans le pied.
Ah oui, il s'est mis un couteau dans le pied. Mais c'est quoi la vraie expression, du coup, je l'ai oublié.
Il s'est mis une aiguille. Oh. C'est pas une aiguille.
Mais non, une aiguille.
L'aiguille, elle est dans la botte de foin.
Ouais, bah oui.
Enfin
voilà.
Bref, on connaît pas les expressions, nous, les gars. Vous commencez à nous connaître. On les fout un peu partout. Le prêtre, il est sur le clocher du village. Et voilà. Et donc, pour la rupture de la tromperie, parce qu'au final, le prêtre n'a rien à foutre ici. Et bah, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement remettre la faute sur la personne en face. Parce que quand tu te fais tromper, il y a un truc super naturel où tu vas te remettre en question, tu vas penser que t'as mal fait les choses, que c'est ta faute, que c'est toi qui dois être blâmé, que t'étais pas assez bien, que t'es moins bien que la fille ou le mec avec qui on t'a trompé, toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, la tromperie, ça a à voir avec une seule personne, c'est la personne qui trompe. Ça a à voir avec personne d'autre. Toi, en face, tu te fais tromper, c'est horrible pour toi, c'est un dommage collatéral. Et toi, après, bien sûr, il faut que tu te reconstruises, que tu fasses un travail pour reprendre confiance en toi, etc. Mais la personne qui te trompe, c'est sa responsabilité et c'est lui le fautif. Toi, tu n'as pas à te remettre en question sur ça. Juste, c'est par exemple, si imaginons tu vas pardonner cette tromperie ou vraiment, enfin, je sais pas, le mec il essaye de te retourner le cerveau ou il a fait un truc avec ta meilleure pote, enfin des trucs vénères comme ça. Là, je n'ai pas vécu cette situation, mais ça soulève encore d'autres cas. Mais si c'est juste une tromperie et qu'il s'ensuit une rupture. Là, vraiment, remets toute la responsabilité sur la personne, vis tes émotions à 100% et n'hésite pas à demander de l'aide pour aller le buter et... non, je rigole.
C'est bien de préciser.
Et pour aller cacher le corps ensuite.
Voilà.
Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Ah, c'est tout. Ok, d'accord. ensuite, il y a une autre personne qui s'est fait tromper. Décidément, on a la commu qu'on mérite. Il y a une autre question, la différence entre les amis et les copines.
Ça c'est ta prise de conscience de ces derniers temps.
Mais ouais, alors les gars, prise de conscience qui date de la semaine dernière, ouais. Hein, donc vraiment c'est de l'actu chaude que je vous donne, tiens ma personne. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de boire des verres avec des gens, de rencontrer des gens, etc., que ce que je vous disais au début dans l'introduction, que j'avais grave du mal. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment différencier les gens qu'il y avait dans mon entourage. Je les mettais à peu près tous au même niveau, à l'exception peut-être d'une personne, tu vois. Et donc, du coup, j'étais toujours hyper malheureuse en amitié parce que j'avais envie qu'il y ait la même relation avec tout le monde, qu'on se fasse confiance, qu'on se voit tout le temps, etc., etc. J'ai ce trait de caractère de si je rencontre quelqu'un que ça matche trop bien, je vais avoir envie de le voir tous les jours, toutes les heures de ma vie, lui parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, soit ça passe comme avec Pauline... Je lui fais un cœur, mais vous le voyez pas. Soit, il y a d'autres où ça passe absolument pas et j'ai juste envie de me tirer une balle un mois après, quoi. Et donc, du coup, là, je m'en suis rendu compte en voyant d'autres gens que c'est possible de passer du bon moment avec certaines personnes. Tu les considères comme tes potes, mais ça fait pas partie de ce fameux premier cercle dont on parlait au début. Et voilà, du coup, comment différencier, ça par contre, je sais pas trop. Je pense que c'est un feeling, t'as le truc de... je sens qu'il y a un vrai lien avec une personne. Je te regarde droit dans les yeux.
Ça fait me pécho de penser à Saint-Valentin, les gars, on n'a rien de prévu à paraître ensemble.
C'est vrai qu'on va la fêter ensemble. merde, tu me fais perdre mon fil. Tu sens qu'il y a un vrai lien qui peut se faire avec certaines personnes. Vous avez des points communs, des traits de caractère qui fonctionnent, qui sont compatibles. Et d'autres personnes où tu passes quand même un bon moment, mais voilà, ça s'arrête là et c'est pas grave. Et je pense qu'il y a un truc où il faut dédramatiser aussi un peu, de t'es pas obligé d'avoir qu'une gigabande d'amis, vous êtes hyper proches et tout machin. Non, surtout quand tu rentres dans la plus de vingtaine maintenant, puisque j'ai 25 ans, que je suis vieille. Tu t'en rends compte que tu peux compter tes amis
sur
les doigts de la main. J'ai fait un peu d'ASMR pour toi, François. Et donc voilà pour cette question, je sais pas si t'avais des
non,
trucs.
Non, je suis totalement d'accord avec toi, je pense que c'est aussi en fonction des déceptions que tu vas avoir de certaines personnes. Et encore une fois, moi je sais que j'avais le tempérament tellement drastique, genre si une personne me décevait, je couper les ponts avec, et c'est un truc où maintenant, en grandissant un peu, je me dis, mais meuf, t'étais ravagée, enfin j'étais... Et je pense qu'il y a des gens qui méritent quand même d'avoir une place dans votre vie, parce qu'ils vous veulent pas du mal, ils veulent être là pour vous, et il y en a d'autres qui sont prêts à vous donner plus, et il faut juste les différencier sans le prendre personnellement, et sans en vouloir à telle ou telle personne de pas vous donner plus que la moyenne.
Ouais, de ouf. Trop d'accord avec toi, Kiki.
Non, moi.
Ensuite, prochaine question. Parlons du, entre guillemets, hic, et de savoir s'il faut le dépasser et comment, Kiki, je vous adore. On t'adore aussi.
Déjà, qu'est-ce que c'est que le hic?
Ouais, je sais plus.
Moi non plus.
Ah merde.
Ah si, c'est le petit truc qui te dérange. Sauf qu'en fait, les gars, nous, on écrit hic, H-I-I-C, tu vois, genre le hic.
Bah oui.
Là, on nous a écrit ça, I-C-K, c'est quoi ça?
J'avais jamais vu cette... Mais ça se trouve, ça veut pas dire ça, si on avait vérifié.
Bah, en tout cas, on a créé une question à partir du hic. Pour nous, le hic, c'est le petit truc en début de relation où tu te dis... Non, même pas relation, parce que là, c'est en phase de date qu'elle disait, non?
Et si tu pas...
Ah, purée.
Donc, c'est n'importe quand. Bah, je pense qu'on peut dire date.
Ouais, petite phase de date. Genre, si t'as le petit truc qui te dérange, et est-ce que tu passes au-dessus? Bah, moi, propre à moi-même, je passe pas forcément au-dessus.
Bah, c'est ce qu'on disait par rapport aux cases, cocher ces fameuses grosses cases-là.
C'est ça. Mm. Donc, après, ça dépend ce que c'est. Il y a des trucs, forcément, je pense que...
S'il écrit ça va, S-A-V-A.
Écoute. Moi, je ne peux pas. Chacun fait ce qu'il veut.
Parce que ça soulève d'autres problèmes, en vrai, derrière un orthographe un peu douteux.
Bah, après, chacun ses théories du complot. Moi, personnellement, c'est mon hic, tu vois. Ouais. Et toi?
Mais je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est pour ça que j'avais pas pris cette question-là, parce que je sais pas du tout.
Mais je pense qu'en fait, il faut juste pas se forcer. Il y a forcément un feeling que t'as au début d'une relation, au début d'un date. Et bien sûr, il y a des trucs qui vont te déranger, mais à savoir déjà, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est minime, savoir le situer, est-ce que vraiment ça te dérange, ou est-ce que... Enfin, je vais vous raconter une histoire, les gars. Moi, il y a pas longtemps... Mais c'est horrible si je dis ça, mais bref, je pense qu'il n'écoute pas mes podcasts. J'ai daté un mec et je le trouvais mime, c'est tout. Et sauf qu'en fait, à partir du premier date, il a rigolé. Mais son rire, il m'a mise très mal. Ça m'a surprise. Et j'étais pas du tout prête à vivre ce genre de sentiment. Et
le hic, c'était son rire, du coup.
Meuf, ça m'a... Mais je te jure, c'était pas un rire. Hein. C'était,
J'avais pas du tout eu cette information. C'était pas un rire horrible.
C'était pas un rire horrible. C'est genre, en fait, il passait d'un être humain au truc dans Le Seigneur des Anneaux, genre.
Le monstre dans la bête,
oui,
c'est plus long.
Le truc qui fait... genre, oh là, qui se replie sur lui et tout. Mais meuf, je te jure, ça a été horrible, ça m'a traumatisée, ça m'a mise mal à l'aise, genre, j'osais plus faire de blagues, alors je suis giga drôle. Et du coup, le date était vraiment ramplamplan. Donc bref, vous faites ce que vous voulez, les gars, mais si vous voyez que vraiment, c'est un truc où vous n'arrivez pas à passer au-dessus, bah, vous forcez pas, écoutez, il y aura plein d'autres situations et plein d'autres gens à rencontrer.
C'est vrai, ça.
Rien de se prendre la tête, hein.
Mm-hmm. Ensuite, est-ce que c'est ça? Oui, je pense. Est-ce que l'amour, c'est censé être simple? C'est tellement mignon. Eh ben non. Personnellement, non. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi, par rapport à ça? Youp. Est-ce que c'est censé être simple? Je réponds, hein. J'ai pris mon gros micro dans la main, là. Non. Pour moi, non. Non, c'est pas censé être simple, parce qu'en vrai, t'aimes quelqu'un, alors on parle d'amour-amour, hein, on parle pas d'amourette du collège, voilà, un truc vite fait, mais vraiment de l'amour, quoi, finalement. Pour
c'est
moi,
une thématique.
Voilà. Pour moi, ça peut pas être simple, dans le sens où t'as une seule personne dans ta vie où tu vas lui accorder toute ta confiance psychologique, mais aussi physique. Enfin, rappelons quand même que quand t'aimes quelqu'un, tu fais un peu crack cracks, enfin tu vois, genre tu donnes quand même de ta personne sur plein de points différents. Donc non, ça peut pas être simple, parce que à l'inverse de relation amicale, relation familiale, tu vas donner une certaine partie de toi, mais pas l'entièreté, alors que relation amoureuse, quand même, si peut-être pas 100%, mais on est à les 99%, enfin moi je trouve. Donc non, pour moi, ça peut pas être simple, et ça se joue uniquement sur la confiance que t'as envers l'autre, si t'es ok à donner ça, et comment la personne va recevoir aussi tous ces éléments sur toi, comment est-ce qu'il va te traiter derrière.
Moi, je suis d'accord, et d'un côté, non. Je préfère être totalement honnête avec toi.
Ok.
Non, je suis d'accord dans le sens où, oui, il y a forcément des trucs où, tu sais, t'es trigger, vu que tu donnes plein de trucs à quelqu'un, etc. Mais je pense aussi que la relation qui est saine, elle est censée quand même, même s'il va y avoir des trucs qui vont te trigger, c'est censé derrière te sécuriser un maximum, tu vois. Et du coup, le truc où c'est compliqué, compliqué, genre imaginons toutes les semaines, il se passe un truc où vraiment la personne en face, t'as du mal à comprendre son comportement, ça souffle chaud froid, machin, machin. Pour moi, c'est trop. Et les relations qui fonctionnent, il y a quand même une espèce de sécurité qui te permet d'être confiante et d'être à l'aise et justement de même de réparer peut-être des relations passées où t'avais pas confiance en toi. Et si c'est tout le temps problématique et compliqué, bah, je pense qu'à l'inverse, ça peut te faire, faire perdre confiance en toi encore plus.
Ok.
Voilà.
Ouais, je suis... Ouais.
Bah, chacun, okay, vas-y,
bah, chacun son avis, hein, bah, les poules sont bien gardées, comme
bah,
on dit.
Bah ouais. Hein.
Écoute.
Ça, je crois qu'on n'avait pas pris... Ah si, ça, toi, t'avais pris. Prochaine question, des tips pour améliorer la communication amoureuse ou amicale?
Alors moi, il y a des trucs qui m'ont, il y a un truc qui m'a trop aidée. Donc j'étais une bille en communication, c'est-à-dire que mon seul moyen de une bille.
Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu.
Il y a des expressions que je connais.
Ouais, oui, vas-y.
Et donc je disais, donc je ne savais absolument pas communiquer avec les gens, c'est-à-dire que mon seul moyen de communication c'était de bloquer. Et après j'ai appris ce qu'était la communication non violente. Et les gars, c'est un truc qui est génial. Je l'utilise tout le temps. J'ai déjà utilisé sur Lisa.
Ah ouais,
ouais. À ton insu.
C'est vrai? Attends, quand ça?
Je sais pas.
Tout le temps?
Non. Je sais pas, genre, vas-y, je le mets sur les relations auxquelles je tiens.
Ok.
Bref, et en gros, c'est au lieu de partir dans des émotions et de dire trop de choses et de pas peser tes mots et d'être trop impulsif, parce que souvent, ça, c'est un problème quand t'es très impulsif aussi, c'est que tu peux balancer des trucs aux gens et après, tu regrettes. Et en fait, la communication non violente, c'est vraiment tu commences par expliquer ce qui s'est passé, ensuite, tu dis comment toi, tu t'es ressenti, ce dont t'aurais besoin, et ensuite, tu mets une espèce de demande en mode, bah voilà, j'aimerais qu'on puisse faire ça, ou est-ce qu'on peut se voir, on peut faire, je sais pas, un truc ensemble. Et en fait, le but de cette technique-là, c'est de juste remettre le problème en situation en le voyant non pas comme un problème et une embrouille, mais en disant « Ok, là, il y a un couac. Voilà ce que moi, j'ai ressenti. Voilà comment j'ai perçu les choses. J'aurais eu besoin de ça. Et voilà ce que je te demande. » Et souvent, la personne en face, comme ça, elle se sent pas attaquée parce que tu remets les trucs en fonction de toi. Et parce que c'est rare, enfin ça peut ne pas être de la faute de la personne en face, et ça permet d'avoir une communication plus fluide où l'autre va dire ensuite son point de vue logiquement et d'avoir un truc beaucoup plus fluide. Et Axel, là t'es en train de chercher à quel moment je te l'ai fait.
Bah oui, et là je vois. Petite manipulatrice.
C'est pas de la manipulation, c'est des tips de communication.
Oui, la bondo, hein. Ouais, bah je te rejoins là-dessus, effectivement, ça marche bien. Enfin, on dit, ouais, faut pas se mettre à la place des autres non plus tout le temps, mais en vrai, si, des fois, ça aide quand même pas mal. J'ai ressenti ça, mais je sais aussi que toi, derrière,
ça.
Quoi?
Ça m'a fait rire, ça. Je sais pas, ça m'a fait rire.
Ok, t'avais d'autres choses à dire par rapport à ça?
Non. C'est super honnête.
Alors, ok, prochaine question. Est-ce possible de revenir vers son ex pour redevenir pote? Ça fait un an et demi sans contact.
On le dit ensemble ou pas?
Non.
C'est pas possible, les gars, vous pouvez pas...
Ah ouais, non.
S'il y a eu une vraie histoire, etc., c'est... Enfin, je pense que toi, c'est comme moi. Tu peux pas être ami avec ton ex. Il y a un passif, il y a eu des émotions, il y a eu une relation. Et tu peux, bien sûr, être en bon terme. C'est ce que je disais à Lisa tout à l'heure. Moi, j'ai un de mes ex que je follow sur Insta. On se parle, on souhaite nos anniversaires, genre, mais ça s'arrête là. Mais s'il y avait une relation amicale qui existait encore, ce serait trop ambigu. Et je pense que ça... Mais oui, ça permet pas de passer à autre chose. Et c'est vraiment essayer de garder quelqu'un alors qu'il se passe plus rien. Enfin, après, il y a peut-être des cas où ça a fonctionné. Et si vous, ça a fonctionné, dites-le nous.
Bah, mais... ça dépend si c'est des ex de combien de temps. Oui. Parce que c'est sûr que si t'es resté avec quelqu'un, genre, je sais pas, mettons moins d'un an et que maintenant t'es dans une relation établie depuis, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Bon, bah, c'est sûr que là, vas-y, bon, on s'en fout. T'as l'eau à couler sous les ponts, tout ce que tu veux. Mais sur des relations un peu plus longues, bah, je vois pas l'intérêt.
Bah, c'est ça. Et la volonté de retourner vers son ex pour créer une relation amicale.
C'est que t'as quand même un truc, un lien toujours qui est fait avec cette personne-là.
Si
la rupture n'a pas suffi. mot rupture, c'est qu'il y a une rupture, c'est que ça s'arrête, c'est pas...
Et puis si vous aviez dû rester potes, ça se serait fait naturellement, vous auriez eu cette relation qui aurait pris le dessus. Mais si là, t'as la volonté d'aller vers lui pour avoir même des petites miettes émotionnelles de quelque chose, non, ça sert à rien,
c'est se tirer une balle dans le pied.
Ah,
c'est ça l'expression du couteau dans le pied. Oh la vache.
Et même, j'étais dans l'aiguille, dans le foin du pied.
Oh putain, on va tirer une balle dans le pied du coup. Mais ouais, non mais ça ça sert à rien en vrai. Pourquoi recontacter ses ex? Pourquoi avoir des contacts avec eux? Moi, ils m'ont bloqué et tout le monde va bien. Alors, ensuite, next one. C'était laquelle? T'avais noté quoi toi sur ton carnet?
Retourner. Ah si, on avait la suite logique de l'ex. On avait retourné vers une ancienne pote avec qui ça a été toxique.
Oui. Ouais, ouais, c'est vrai.
T'en penses quoi, toi?
Bah, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense plein de choses. Où est-ce que je l'ai noté? Ah oui, donc retourner avec quelqu'un avec qui on a été toxique. Déjà, si tu considères que t'as été toxique avec quelqu'un, je trouve pas ça giga cool de te dire je retourne vers cette personne-là. Ouais. C'est très compliqué. Pour moi, je vois pas un univers où ça pourrait bien se passer, sauf si toi vraiment t'as en tête tous les éléments qu'on fait que t'as été toxique, si t'as bien identifié tous les trucs que t'as fait subir un peu à cette personne, parce qu'en vrai tu connais une relation toxique, derrière ça ravage un peu quand même. Donc pour moi faut que t'aies toi pleinement connaissance de tous les trucs que t'as fait qui ont fait que du coup t'as été toxique, mais ça me paraît quand même assez compliqué. Enfin pour moi le schéma il va que se reproduire en continu.
Mais tu peux très bien prendre des nouvelles de cette personne ou lui envoyer un message pour lui dire j'ai reconnu que sur ça, j'avais été toxique. Si par exemple ça avait pas été fait...
Ouais, limite un message d'excuse.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais redevenir ami avec, bah, c'est comme les ex. Une fois qu'il y a quelque chose qui est cassé, c'est très rare que tu puisses repartir sur une relation saine et fluide. Après, il y a peut-être des exceptions, mais ça ne semble pas très sain. Autant se faire de nouveaux potes et se dire, bon, bah voilà. Enfin, en fait, ça me donne un peu comme l'idée que la personne, elle accepte pas la déception et l'échec de cette relation et qu'elle veut à tout prix, faire que ça fonctionne.
Ouais, mais c'est toxique en fait. Ouais, si tu forces une amitié, c'est déjà toxique.
C'est ça. Genre, il y a des amitiés qui se sont mal terminées, il y a des amitiés où, ouais, on a la culpabilité d'avoir eu le mauvais rôle et de s'être mal comporté. Et je pense que c'est plutôt ça qui te dérange que vraiment l'envie de retourner vers ta pote.
Ouais.
Si je peux être honnête.
Bah, mais sois honnête, ma bénée. À choisir, Pauline.
Lisa.
Tu préfères perdre tous tes potes.
Je vais maintenant. Pour combien?
Tu préfères ton père ou ta mère?
Ton ex-mec ou ton ex-meilleur pote?
Oh la vache, aucun des deux. Tu préfères perdre tous tes potes, mais tu as le vrai amant de ta life, ou l'inverse?
Moi. Je pense que je préfère... J'ai pas envie de perdre tous mes potes parce que je pense... Enfin là, à cette période de ma vie, en tout cas, peut-être que dans 10 ans, je dirais un truc différent. Mais pour l'instant, mes potes m'aident beaucoup plus à me développer en tant que personne et à réparer des choses... J'allais dire une phrase, meuf. J'allais dire réparer des blessures qu'ils n'ont pas causées.
Ah, mais va te faire foutre. Pour qui tu te prends? Ça y est, il y a 3 caméras, 2 micros et puis let's go.
À réparer mon petit cœur.
La vache.
Oh mon dieu, je me suis haï moi-même. Non mais je disais, mes potes m'ont permis de quand même prendre plus confiance en moi et évoluer que certaines relations, enfin que les relations précédentes, purée je vais y arriver, que j'ai eues, parce que je pense que j'étais pas prête à être dans des relations si jeunes. Et du coup à l'heure actuelle, mes potes m'aident à avoir confiance en moi, à me développer, à apprendre à vivre seule, apprendre à vivre tout simplement, à guérir de mes schémas problématiques. Et pour ça, là, à 24 ans, je choisis les amis.
Ouais.
3 ans de sevrage.
Oh putain. Moi, je sais pas du tout, meuf, en vrai. Parce que je pense que... Enfin, bon, après, c'est la prochaine question, tant pis, je spoil un peu. Mais ce serait mentir que de dire qu'à partir du moment où t'as quelqu'un dans ta vie, tes potes, ils passent pas au second plan.
Ouais.
En vrai, je pense qu'il y a quand même des choix qui se font naturellement. Après, c'est sûr que là, actuellement, moi, je choisis mes potes 200%. Mais parce que j'ai personne. Je connais pas l'autre côté.
Donc, ça se trouve dans quelques mois, années, millénaires,
voilà,
on repose la question, on dira mais les potes, non, c'est ciao. Mais pour l'instant, c'est important.
Ouais, mais du coup, donc, ça fait écho à la dernière question qui est les potes avant les putes, qu'est-ce qu'on en pense ?
Mais ça, c'est... C'est catastrophique.
Mais déjà, cette expression, elle est nulle sur 10, premièrement. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle sort que dans des contextes de merde, genre... En soirée, t'as ton groupe de potes, t'en as un qui drague quelqu'un, t'es ah, les potes avant les putes, reste avec nous, machin.
Ça te fait perdre une estime de toi.
Bah oui.
Parce que imaginons, t'es la meuf d'un mec où il y a ce genre de délire, ou vice versa, t'es le mec d'une meuf où il y a ce genre de truc. T'es là en mode, bah qu'est-ce que je fous là, pourquoi tu te mets en couple si c'est pour penser
oui,
des choses comme ça. Enfin, en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on sait que c'est faux, à partir du moment où t'es dans une relation, il y a plus de chances que ton mec ou ta meuf passe le plus souvent en priorité, et ça n'a rien de mal, les gens en couple, arrêtez de culpabiliser, parce que vous voyez plus souvent votre mec ou votre meuf que vos potes, c'est normal.
C'est normal, tu construis ta vie avec.
Mais oui, c'est normal au début, c'est même au milieu, même tout le temps, et il faut juste trouver votre équilibre, et si vous êtes heureux avec votre mec ou votre meuf, tant mieux pour vous. Vos potes sont censés comprendre et vous accompagner dans votre relation aussi, et enfin moi c'est...
Bah faut pas que ça fasse par contre le truc de tu vois que ton gars ou que ta meuf, et par contre tu calcules plus du tout tes potes, faut quand même trouver le juste milieu. Mais tu vois, entre Dieu aussi. C'est quoi la chanson tenir une lampe, j'ai eu ça immédiatement dans la tête. Mais bon bref, on n'est pas un
elle
podcast
ouais. À 16h tout à l'heure.
Mais du coup ouais, ça peut pas être un équilibre non plus parfait, 50-50, je vois autant mes potes que je vois la personne avec qui je suis, mais par contre faut quand même que les moments que tu passes avec tes potes, ce soit des moments quali où tu prends le temps, je sais pas, d'organiser des trucs un peu sympas qui changent un peu, et à l'inverse tu fais pareil avec la personne avec qui t'es.
Mais on en avait parlé aussi, on avait traité cette question dans l'épisode qu'on avait fait avec Axel.
Oui.
Donc vous pouvez aller l'écouter, il y avait plein d'autres questions sur les relations amoureuses, et vous pouvez aller le voir, je sais même plus. Ça s'appelait comment, FAQ?
Je sais plus. On bitch, on binge. Ah, mais non, ça c'est.
FAQ relation amoureuse, je crois.
Mais où est-ce qu'on l'a appelé comme ça?
Sur YouTube.
Ah, elle nous suit sur YouTube aussi. Ok.
Et on avait une dernière question qu'on n'a pas traitée.
Ah merde.
Les effets secondaires de la dépendance affective dans une relation saine.
Ensuite. Ah ouais, moi je l'avais pas pris celle-là.
C'est vrai?
Non, elle me fait peur. Bah non, si. Non, enfin vas-y, tu veux répondre?
Non, vas-y.
Parce que c'est le truc qu'on se disait tout à l'heure des différentes phases que t'as. Juste après que t'aies arrêté une relation dans laquelle du coup t'étais dépendante, t'as la première phase de juste reconstruction où c'est comme quand t'es accro... à n'importe quoi, que t'as une dépendance, genre je sais pas, à la clope ou j'en sais rien, donc quand t'arrêtes t'as l'impression de perdre complètement tous tes repères, de devoir un peu réorganiser ton quotidien, tout, même tes pensées, enfin tout, et j'ai l'impression que t'as une autre phase juste après en mode allez c'est bon ça y est, c'est reparti comme en 40, je reprends confiance en moi et tout, mais qu'il y a un espèce de faux semblant de je vais mieux, donc au final t'es quand même à la recherche de retrouver quelqu'un pour re-être dépendante d'autre chose, que ce soit amical ou en couple, hein, c'est valable pour les deux. Et après, tu retombes encore un petit peu, et ensuite, tu reviens vraiment. Mais là ça y est, t'as appris des vraies leçons, et c'est bon.
Ouais, il y a le moment où tu contrôles tout aussi.
Ouais, ah oui.
Tu veux vraiment être dans la phase de « plus personne me blessera, donc je contrôle tous les gens que je rencontre ». Mais il y a aussi le truc où la dépendance affective, c'est un truc... qui émane d'un style d'attachement de base, c'est-à-dire que t'as plus ou moins un comportement anxieux ou t'as plus ou moins un comportement évitant, c'est-à-dire que c'est prouvé par des psys et tout. Soit t'as un style d'attachement qui te fait fuir la proximité intime, relationnelle, émotionnelle, etc. Ou soit à l'inverse, tu vas avoir plus tendance à être dans la dépendance affective. Et c'est ce truc-là qu'il faut questionner pour ne pas le reproduire de relation en relation, et pour comprendre un peu tes schémas répétitifs, et toi, ton mode de fonctionnement, les traumas que t'as pu avoir avec ta famille, dans ton enfance et tout, pour justement après aller dans des relations plus saines, où t'as pu ce style d'attachement plus ou moins désorganisé, qui peut te faire beaucoup de mal et faire du mal en face aussi, quoi.
J'adore quand tu parles. T'es super intelligente.
Elle me drague, parce que c'est à Saint-Valentin. Hein. Tu vois, c'est la dernière question.
Bah ouais, c'était la dernière. Quelle conclusion on fait de tout ce qu'on s'est raconté? À part rester célibataire une fois de plus. Rester avec vos potes et rester seule en même temps.
Non, oui.
Déjà, oui.
Oui. On espère que ça vous a plu. Parce que Franchement, nous, on s'est prêté un premier exercice aujourd'hui.
Pas facile.
On va pas vous mentir entre vous et nous. Mais non, ça nous tenait à cœur de parler des relations parce que ça peut paraître parfois bateau de parler que relations amoureuses, relations machin, amicales. Mais on a beaucoup de demandes par rapport à ça. Et c'est vrai que même nous...
Moi, j'apprends tous les 15 jours, j'ai une nouvelle conclusion de vie. Donc,
Bah, c'est ça, on a toujours des questionnements. Et c'est sain de se questionner parce que ça veut dire qu'on n'a pas envie de faire du mal et qu'on n'a pas non plus envie de souffrir. Ouais. Donc ici, on parlera toujours sans tabou de tout ça et n'ayez pas de honte à parler de vos relations, de vos ruptures et de votre dépendance affective. C'est ça qui fait aussi les relations humaines.
Oui, et si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer. Nous, on répond sur Insta.
L'époque.
On publie tout, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis voilà, on a déjà une idée du prochain épisode.
Ouais.
On vous le tease pas. Voilà.
Non, on vous dit rien du tout.
On vous dit rien, c'est bon.
On est saoulés, là.
On garde ça pour nous, mais on revient rapidement. Et puis, gros bisous.
Gros bisous. Ciao, ciao.
Ciao.
Oh my god.